Chapitre 4. Soupardin, Ifs. Mandataire. Directeur de l'Union du Littoral. Agence générale des familles et du commerce, location de villas, vente de terrain, renseignements gratuits, recouvrement, conseil. Telle était l'inscription qui se lisait en lettres jaunes sur fond noir à la porte de Soupardin, Ifs. En face le porche de l'église de Criquefleur. À côté de cette enseigne, on en voyait une autre. Soupardin, sœur, approvisionnement pour les familles, vin, fruits, épices. Pour qui savait traduire en français tout bête le style noble de ces enseignes, cela voulait dire que d'un côté, il y avait un bureau de location de maison dirigé par Soupardin, Ifs, et de l'autre, une boutique de fruiterie et d'épicerie tenue par Mademoiselle Soupardin, sœur, fille du dit Soupardin, Ifs. Et ces enseignes seules suffisaient pour faire connaître ce personnage qui n'était pas un agent de location mais un mandataire et qui ne permettait à ses filles de faire le commerce qu'à condition de vendre des épices et non de l'épicerie, des fruits et non de la fruiterie. C'est qu'en réalité, il était, ou tout au moins, il se croyait un personnage Soupardin, Ifs. Ancien avoué, ancien substitut du procureur général à Cayenne, ancien agréé, ancien huissier, ancien commissaire-priseur, il était venu s'échouer à Cliquefleur, prendre ses quartiers de retraite, disait-il, parce que les pays qu'il avait jusqu'alors habités ne convenaient pas à sa santé, suivant son expression, ou plutôt parce qu'il avait été expulsé de partout par les dettes et la misère. De son ancienne splendeur, il n'avait conservé que deux choses, la cravate blanche et un immense portefeuille en veau noir, plus grand et plus bourré que celui d'un ministre. Que la jaquette fût râpée et roussie par un long usage, que les semelles des souliers ne fussent plus qu'une feuille mince et trouée, peu importait, la cravate blanche sauvait la tenue. Ce ne sont ni les paysans ni les artisans qui se nouent des morceaux de nansouk autour du cou. De même, ce ne sont ni les paysans ni les artisans qui parcourent les chemins, un portefeuille sous le bras. Quand ils ont quelque chose à porter, ces gens, simples et primitifs, prennent un panier. Tandis que, quand les sœurs Soupardin avaient des épices à envoyer à une pratique dans le quartier de laquelle leur père devait passer, elles employaient pour cela le portefeuille paternel. Si bien que lorsque l'ancien magistrat ouvrait ce portefeuille pour en tirer un plan ou un bail, il s'en exhalait trop souvent certains parfums d'épices que, dans le vulgaire, on appelle tout simplement l'odeur du fromage de gruyère ou du hareng sort. Mais cela n'était pas pour troubler Soupardin. N'avait-il pas sa cravate blanche? D'ailleurs, rien ne le troublait ni le démontait. Il en avait vu bien d'autres et partout, avec tous, il gardait l'aimable sourire qu'il se posait chaque matin sur le visage en nouant sa cravate. Même quand il avait été obligé de quitter les pays dont l'air ne convenait plus à sa santé, il avait conservé ce sourire. On le destituait pour cause de misère scandaleuse, il souriait. On l'obligeait à vendre sa charge d'avoué, il souriait. Les huissiers, ses anciens confrères, le saisissaient, les commissaires-priseurs le vendaient, il souriait toujours. Ce fut avec cet éternel sourire qu'il accueillit Madame Belloquet quand il la vit entrer dans son bureau. « Que puis-je pour votre service, belle dame ?» Et par un geste qui lui était habituel, il ouvrit son portefeuille comme pour en tirer quelque chose qu'il aurait offert à la belle dame, une boîte de cirage ou un paquet de chicorée ou une autre denrée servant à l'approvisionnement des familles. Et cependant, il savait bien que ce n'était point pour se procurer des approvisionnements de ce genre que Madame Belloquet lui rendait visite, mais toujours pour le consulter à propos de quelques affaires délicates et embrouillées, car, plaideuse enragée, elle était une de ses bonnes clientes, ayant reconnu en lui un homme avisé et retors, en même temps que prudent, qui ne s'emballait jamais et qui aimait comme elle les petits chemins détournés dans lesquels on marche sûrement à son but, sans faire de bruit, des bons petits chemins normands, couverts d'ombre et feutrés d'herbes douces. « C'est de M. Belloc que je veux vous entretenir, » dit Sélanie. À ce nom, Soupardin se leva vivement et sans perdre son sourire, il alla s'assurer que la porte, qui, de son bureau, communiquait avec le magasin d'approvisionnement, était bien fermée, puis il ferma de même celle de la rue, et revenant s'asseoir dans son vieux fauteuil tout dépaillé, « C'est donc de votre cousin qu'il s'agit, » dit-il à mi-voix, en évitant de nommer Belloc aîné. Avec une autre que Madame Belloquet, il eut pris soin de recommander de ne pas prononcer des noms propres, ce qui est toujours inutile et souvent ennuyeux, mais avec elle, pareille recommandation était inutile. Elle comprenait à mi-mot, sans qu'il fût nécessaire d'appuyer les points sur les i. Sans nommer son cousin, elle raconta comment Marichette venait d'arriver chez elle et ce qui avait provoqué cette fuite. « C'est gros, très gros !» dit Soupardin lorsqu'elle fut arrivée au bout de son récit. « Monsieur le maire de S.M., personnage influent, homme redouté, ami dans de puissantes positions, c'est gros, très gros !» Et de nouveau, il ouvrit son portefeuille, ce qui lui permettait de gagner du temps et de préparer ce qu'il voulait dire. « Quelles sont vos intentions ? » demanda-t-il. « Nous aimons cette jeune personne tendrement. »« Cela est bien naturel. » »« Et cet outrage nous a jetés, mon mari et moi, dans une exaspération. » »« Qui se comprend et que je partage, j'ose le dire. » Il y avait cela d'heureux chez Soupardin que l'exaspération la plus violente n'effaçait pas son sourire. « Nous sommes donc décidés, mon mari et moi, continua Célanie, à venger cette pauvre enfant. Nous ne reculerons devant rien et nous enverrons ce misérable au bagne, si cela est possible. »« Si cela est possible. » »« C'est justement ce que je viens vous demander. » »« C'est gros, gros, gros. » »« Cependant, je sais bien, vous invoquez l'article 332 du Code pénal, c'est juste. Et aussi l'article 333 qui dit que si le coupable a autorité sur la victime, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, c'est juste encore. Mais il faut prouver la chose, c'est-à-dire l'attentat. Et voilà où la difficulté commence. Personnage influent, le maire de S.M., bien posé, estimé, honoré... « Vous voulez dire mépriser ?» Entre nous, sous le manteau de la cheminée, il fit le geste de se pencher sous ce manteau, nous pouvons le dire tout bas. Mais en public, trouvez-vous des gens qui l'affirment hautement ? Qui a vu comment les choses se sont passées ? Vous m'objecterez le carreau cassé et les matelots. Mais qui est-ce qui l'a cassé, le carreau ? Qu'ont-ils vu, les matelots ? Une jeune fille qui se sauvait, voilà tout, et encore l'ont-ils vu ? Puisqu'ils étaient ivres, et les retrouverons-nous ? Vous me direz que le fait matériel existe, l'attentat, et que la chose peut être constatée. Je vous l'accorde, bien que, pour la jeune personne que vous aimez si tendrement, cela soit épouvantable, le dernier degré de la honte et de la misère. Mais j'admets que vous passiez par là-dessus, et que, pour la satisfaction de la vindicte et de la vengeance, vous dénonciez le crime... Tout n'est pas fini. Qui est le coupable ? Le maire de S.M. n'est pas le seul homme qui habite sa maison, le seul avec lequel la jeune personne se trouve en relation. Il y a des commis, des jeunes gens. Ne pourra-t-il pas prétendre que ce qu'on lui impute est le fait d'un de ces jeunes gens, non par crime, mais par consentement spontané et réciproque, ce qu'on appelle amour ? Vous voyez qu'en commerçant, je n'avais pas tort de m'écrier « si c'est possible. Bien entendu, je ne vous donne que mon opinion et je vous engage à consulter une autre personne, car il se peut très bien que moi, qui suis du pays, je fasse une trop grosse part à l'influence de Monsieur le maire de S.M. Ne la négligez pas cependant, car lorsqu'on entreprend une chose, c'est pour la réussir, n'est-ce pas ? Et dans la partie que vous engageriez, cette influence pèserait d'un poids très lourd. Malgré son exaspération, Célanie était trop avisée pour ne pas écouter et peser ce que disait Soupardin. Mais cependant, ce n'était pas sans se révolter et sans protester. « S'il est inattaquable comme vous le croyez, dit-elle, pourquoi a eu-t-il peur ? De quoi a-t-il eu peur ? Du scandale, tout simplement. Et cela se comprend. Dans sa position, une accusation de ce genre n'est pas agréable, même quand on en sort victorieux. Vous reconnaissez qu'elle serait terrible pour lui ? Sans doute, elle serait fâcheuse, et je crois qu'en menaçant, on pourrait obtenir de lui bien des choses. Ce serait à voir dans l'intérêt de la jeune personne, pour sa dot ou autrement. Il y aurait là une négociation à engager qui, conduite par un homme prudent, pourrait donner des résultats rémunérateurs. Et Soupardin souligna d'un sourire ces paroles, déjà bien précises dans la bouche d'un homme d'affaires, d'un mandataire. Et si la malheureuse enfant est enceinte, dit Sélanie. Ce serait bien malheureux au point de vue de la morale, mais au point de vue pratique, cela serait fameux, j'ai le regret de le dire. Ce serait alors qu'il faudrait redoubler de prudence, car un procès, quel qu'il fût, au criminel ou au civil, aurait pour résultat certain, je laisse la mère de côté, si intéressante qu'elle soit, de faire déshériter ce pauvre enfant. Sélanie réfléchit un moment, puis tout à coup, elle se leva. « Je vous remercie, dit-elle, je vais peser vos paroles. Présentement, j'ai la tête perdue. »